RPPPP.
Radio Petit Bar.
Apaise Nas et Paulin.
La radio qui fait disjoncter votre mémoire.
L'émission de radio
sur la
mémoire insolente.
Bonjour à tous, bienvenue sur RPPP, radio du Petit Bar, visite Paulan et Pézenas. Nous sommes installés à l'ancienne gare de Paulan pour un plateau radio en public. Je suis accompagné de Maria pour animer cette émission. Salut à toi.
Salut Yed et salut à tous. Pendant une semaine, nous avons réfléchi au sujet de la mémoire.
On vous parlera de nos souvenirs et de ceux des anciens. Merci aussi de ce que nous ne voulons pas oublier.
On parlera aussi des mémoires du corps et d'histoire. Tout de suite, nous allons nous intéresser au support de mémoire.
On part à Saint-André de Sagonise pour visiter les studios de Radio Pays de l'Hérault, une radio qui propose plus de 30 ans d'empreintes sonores sur le territoire.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oui, moi je suis Axel, je suis technicien son. Donc là, on a le studio, c'est là où on enregistre les émissions. Comme c'est une radio associative, ce sont principalement des bénévoles qui font les émissions. On n'a pas de professionnels qui font les émissions. Donc la régie, elle est derrière, je vous montre. Ça, c'est l'envers du décor. C'est ici qu'en fait, on diffuse le programme de la radio. C'est ce qui est en train de tourner là. Et en fait, grâce à la console, dans l'ordi là, on peut quand même enregistrer pendant que ça continue à diffuser. Ce qu'on va faire ce matin, parce que je vais vous faire des jingles, parce que j'ai besoin de jingles pour habiller l'antenne. Ça vous va ?
Oui.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Allez, ça tourne.
Respirez. Écoutez, vous êtes chez vous.
Radio Pays d'Hérault, votre radio libre.
Entendez-vous la différence ?
Parfait. Et du coup, on va faire le jingle musicalement inspiré, le jingle officiel.
Localement inspiré.
Ouais, avec plus d'énergie, on va la refaire, mais joyeux.
1, 2, 3. Localement impliqué, musicalement inspiré.
Bon, c'est bien, vous m'avez fait des beaux jingles. Alors moi, en fait, à midi, là, il faut que je balance le journal sur les ondes de la radio. Donc là, je peux écouter, j'ai le journal.
RPH, il est midi, direction Paris pour le journal de Radio France Internationale.
Voilà.
12h à Paris, 10h en temps universel. Le journal de Fanny Blechner.
Bonjour Dara, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le budget italien retoqué hier par la Commission.
Voilà, donc là en fait, on a balancé le journal de Radio France Internationale à Paris et nous on reprend la main ensuite à midi 10, on reprend la main juste derrière. Donc je l'ai balancé comme ça.
Après une vague d'hier au Mexique.
Et on peut revenir sur ce qu'on a fait. On peut l'écouter là rapidement.
Localement inspiré.
OIM.
Localement.
OIM.
Musicalement. OIM. Bon, on va écouter un peu. Donc là, en fait, moi, je vais tout simplement récupérer les bouts qui m'intéressent. Je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas.
Rendez les ondes actives.
Radio Pays d'Hérault, votre radio libre.
Bon, celui-ci, il est mieux, donc on va virer celui-là. Hop. RPH, bonjour. Oui. Ben ça va, mais écoute, je suis avec la colo là, donc tu peux me rappeler où il y a une urgence là ? D'accord, ok, très bien, je t'envoie ça. Ok, à plus, ciao, ciao.
Que faites-vous de vos archives ?
Alors, les archives, elles sont stockées sur un ordi d'archives qui est juste là. Voilà, c'est stocké sur un ordinateur. Après, on a des bandes magnétiques, mais alors là, faut aller les chercher quoi. Sous forme de bande magnétique, donc c'est pas numérisé, donc il y a effectivement des formats assez différents, puisque ça a évolué au fil des années, sur les 30 ans, c'est plus du tout les mêmes façons de travailler, donc il y a des bandes magnétiques, il y a l'ordinateur, il doit même y avoir des CD, je pense, quelque part. Voilà.
Servent-elles à quelqu'un ?
Elles nous servent à nous déjà, pas mal, quand on a besoin d'aller chercher des anciennes émissions pour diverses raisons. Là, par exemple, il y a un graffeur dans la vallée qui est mort, qui était assez connu, qui était un graffeur qui faisait pas mal de choses en 3D, qui est mort il y a un an. Donc, on était obligé d'aller rechercher des anciennes interviews de lui pour le diffuser, pour faire une émission spéciale. Donc, elles nous servent pas mal à nous. Elles servent aussi au CSA qui contrôle de temps en temps, qui fait des contrôles de ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal.
Merci pour cette visite. Nous explorons d'autres supports de mémoire et nous accueillons Redouane. Salut Redouane.
Salut à vous.
Quelle est la chanson que tu as choisi de nous faire écouter?
C'est une chanson de Mohamed Roucha. Elle me fait penser à la route du bled. La route du bled, c'est d'abord charger la voiture. C'est la plus grande tâche. Tu pars avec plein de valises chargées pour rentrer les valises vides. Deuxième tâche, bien choisir sa place. Parce que les parents aiment bien rajouter des valises à tes côtés ou sous tes pieds. La pire place, ça restera la place du milieu. Si tu veux dormir, ton cou fait clac-clac, torticolis. Tu dors pas du trajet. Je me sens vraiment en vacances. Quand je vois le taureau, là je sais que je suis en Espagne, c'est le kiff. Troisième tâche, attention de bien s'arrêter sur les heures de repos où il y a du monde, pour pas se faire voler des choses précieuses quand on dort. Le meilleur du trajet, c'est les attentes à Al Jazeera, pouvoir monter dans le bateau, même si elles sont interminables. Tu rencontres des gens, ça sent encore plus les vacances. Quatrième tâche, quand tu descends à Tanger, tu récupères ta puce inouïe et Maroc Telecom pour appeler la famille et pouvoir être connecté quand tu es au bled. C'est le moment où tu te sépares de tous les gens que tu as rencontrés au fil du trajet. Chacun prend sa route. Moi je vais à Tenerife et Gulmima. Là, ça fait 2 jours que tu manges du pain au thon et à la tomate. Quand on arrive à cette étape du trajet, je suis pressé d'arriver. Ça fait 1 an que j'ai pas vu ma famille et je suis très content d'arriver près d'eux.
Merci Redouane de nous avoir raconté ton souvenir en musique.
Je vous rappelle que nous sommes à l'ancienne gare de Pollan, où on peut admirer tous les tableaux de l'exposition Réciprocité. On a choisi d'interviewer Anaïs Armel Guiraud, une des artistes plasticiennes de l'exposition.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est le but de cette exposition?
Très bonne question. Le but de cette exposition, c'est de montrer, de mettre en avant les travaux qu'ont fait les enfants et les ados qui font des études d'art plastique à Essor, et aussi de montrer les travaux des artistes qui sont intervenus auprès des enfants. Donc dans cette expo, il y a 2 types de travaux, des travaux d'enfants et des travaux d'artistes.
Sur quelles œuvres personnelles avez-vous travaillé autour de la mémoire?
On va du coup aller à côté. Ça, c'est une image que j'ai faite lorsque j'étais en résidence à Agadir, au Maroc. J'ai travaillé sur la légende de Aïcha Kandisha. Peut-être que vous, ça vous dit quelque chose, Aïcha Kandisha?
Ça nous dit quelque chose, ça. Plutôt les Maghrébins. Quand t'es petit, pour nous faire flipper, c'était ça. Ouais, on va ramener Aïcha Kandisha et c'est bon. Après, le petit, il avait peur.
Mais à des grands, ils nous disaient pas de répéter ce prénom pendant 3 fois pendant devant un miroir le soir, etc. Parce qu'ils nous disent qu'il y a un esprit qui va venir, etc.
Donc du coup, Aïcha Kandisha, il y a plein de personnes qui ont des histoires différentes, surtout des histoires orales du coup, parce qu'elles n'ont pas été écrites, il n'y a aucun document écrit. Donc tout ce qui est oral, ça appartient à la mémoire. On s'en rappelle ou on ne s'en rappelle pas. Et donc du coup, moi j'ai fait 10 de photos à propos de cette femme-là. Donc ils sont assez libres, puisque du coup, je n'avais pas vraiment de représentation ni de description exacte. Et donc ça s'appelle les pattes du diable. Il y a beaucoup de légendes qui disent que Aïcha Kandisha a une forme humaine, mais soit des pattes de poulet, soit des pattes de mouton, soit des pattes de diable, soit des choses comme ça. Mais qu'elle les cache. Donc du coup, moi, je me suis dit, si je devais me trimballer des pattes de poulet pour toujours, quitte, je les cacherais pas. Je les mettrai là en tant qu'accessoire et comme ça, ça passerait inaperçu. Donc voilà, on retrouve des petites bribes de l'histoire d'Aïcha Kandisha.
Bah, on voit une femme un peu métisse avec des cheveux bouclés vers l'avant. On la voit avec un genre de drap.
Le drap, il est blanc avec une ficelle rouge.
Et une boucle d'oreille avec trois pattes de poulet, avec du vernis et du ruban adhésif ou je sais pas quoi.
J'ai travaillé les raccords, le rouge, c'est le même rouge que la ficelle, même rouge que sur la tenue.
Elle regarde pas en face, elle regarde sur le côté. On dirait qu'il y a quelque chose devant elle.
On dirait qu'il y a un diable.
Elle est pas heureuse.
Elle n'a pas d'expression.
Elle est pas heureuse, elle est pas triste.
Elle a le regard assez froid et elle est toute seule. Donc ça veut dire qu'on peut supposer qu'elle est soit peut-être pas très sympa, soit qu'elle est pas très entourée.
L'art est-il un support de mémoire ?
C'est fortement possible. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent par rapport à ça. Et en effet, comme la mémoire, parfois ça va, parfois ça vient, parfois c'est flou. Je pense que c'est un bon support qui permet de travailler l'art, oui.
Yed doit repérer une photo pendant la visite de l'exposition ?
Oui, c'est l'ancien quartier du Petit Bar, on appelait ça le Porsche.
Sur l'exposition à Poland, il y a une photo qui montre notre quartier il y a 2 ans, quand il y avait toujours ce bâtiment de 5 étages qui n'était pas encore détruit. J'habitais juste là. Derrière le Porsche, dans le bâtiment qui est derrière, sur le coin. Mais j'avais des potes qui habitaient là. C'était un bâtiment où plusieurs jours on s'est amusé dans ce Porsche, on jouait au foot, on faisait des cache-cache et plusieurs jeux. Ce bâtiment, je ne l'oublierai jamais, il restera dans notre mémoire, dans ma mémoire. Pour l'instant, il y a toujours encore les travaux, c'est une grande rue. En face de lui, ils ont fabriqué un parking. Et de l'autre côté aussi de ce bâtiment, ils ont fait un nouveau parking. Et peut-être dans cette ligne de bâtiment, ils vont arrêter, ils vont faire une route plus grande. Ils auraient dû le laisser juste rénover, ou soit détruire et reconstruire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations pour les gens. Il y a des gens qui n'ont pas de foyer, etc. Ce serait bien d'avoir plus de foyers dans le quartier.
Merci Yed de continuer à faire exister ce bâtiment qu'on ne verra plus.
Et maintenant, nous accueillons Mounir qui va nous parler d'histoire. Celle qu'on n'apprend pas à l'école en France. Une partie de l'histoire du Maroc qu'il y a découvert grâce à une vieille photo qu'il possède.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
La fierté verte. Je vais vous raconter la fierté verte, une histoire du Maroc. En 1894, Hassan Ier, le roi du Maroc, meurt. La France, l'Espagne et l'Allemagne en profitent pour récupérer le Maroc. En 1912, le Maroc est divisé en deux. La France a pris le nord et l'Espagne a pris le sud du Maroc. En 1959, le Maroc devient indépendant sur la partie française. Et Hassan II devient roi du Maroc 2 ans plus tard. Quand il décide de lancer une opération de reconquête du Sahara espagnol, la partie sud du Maroc, tous les Marocains sont derrière lui. Le 6 novembre 1975, la marche verte se met en route. La marche verte, c'est une marche symbolique pendant laquelle 350 000 Marocains ont traversé le Sahara avec des drapeaux rouges et une étoile verte. Même si l'ONU n'a pas reconnu cette conquête du territoire, le 6 novembre est devenu une fête nationale au Maroc. Aujourd'hui, dans la majorité des familles marocaines, on peut retrouver des photos de ces grands-pères qui ont participé à la marche verte. Ce rêve marocain pour reconquérir leur fierté et leur terre.
Nous continuons notre enquête sur les mémoires et on change de territoire.
Revenons à Poland avec Hélène David, qui va nous parler de l'histoire de cette ancienne gare, là où nous nous trouvons en ce moment même.
Donc, je fais partie des gens qui s'occupent de l'association « Qu'est-ce qu'on attend ?». Je m'appelle Hélène David.
Pourquoi occupez-vous les lieux emblématiques du village ?
Disons qu'on occupe les lieux emblématiques qui ont été un petit peu abandonnés. On a pris la place qui était inoccupée, c'est-à-dire la gare, les halles. On a participé à une exposition qui a occupé la cave coopérative qui est en cours d'abandon parce qu'en fait la cave coopérative ne sert plus à faire le vin à Poland. Maintenant, le vin, il est fabriqué plus loin, dans un autre village. Et donc, l'espace de la coopérative est actuellement libre et inoccupé. Il sert juste de stockage, quoi.
Depuis quand la gare ne marche plus ?
Elle ne fonctionne plus depuis les années 70.
En 1907, que s'est-il passé de dramatique à la gare de Poland ?
Ah ! Alors, en 1907, Il y a eu, au niveau régional, un gros problème avec les vignes. Il y a eu une maladie qui s'appelait le phylloxéra. C'est un insecte qui ravageait complètement toutes les vignes. Donc tous les gens ici vivaient principalement de la vigne. Ils ne vivaient pas du tourisme, ils vivaient pas. C'était vraiment la vigne qui faisait vivre tout le monde. Donc vous imaginez, la vigne, elle donne plus de vin, donc les gens, ils ont plus de sous, ils n'ont plus de quoi acheter à manger, ils n'ont plus rien. C'est vraiment très problématique. Et du coup, sur Béziers, il y a eu une grosse révolte. Les gens se sont révoltés, il y a eu un début de révolution. Le préfet a demandé à la troupe d'intervenir. Et la troupe de Béziers a refusé d'intervenir contre les gens de Béziers. Parce qu'ils devaient peut-être avoir de la famille ou des gens qui connaissaient sur Béziers. Ils ne voulaient pas tirer sur des gens qu'ils connaissaient. Le préfet, qui voulait absolument que tout rentre dans l'ordre, le préfet, il a demandé à la troupe de l'Odève de venir à Béziers pour calmer les gens. Donc ils sont descendus en train, mais seulement à Pollan. C'était des gens, elle n'est plus du tout en activité, cette gare, mais à l'époque, il faut se rendre compte qu'il y avait 500 personnes qui travaillaient sur le site. C'était un gros site de réparation des machines, des locomotives, des trains. Hein. Et donc il y avait beaucoup de gens, et il y avait beaucoup de gens, entre autres, qui étaient militants. Et qui donc ont voulu protéger les viticulteurs de Béziers. Et donc, ils ont arrêté le train. L'armée, elle a été arrêtée là, juste là où vous êtes, là. Le train, il a été stoppé, ils n'ont plus pu avancer. Et le préfet qui était là, il a failli se faire lyncher.
Ça veut dire quoi, lyncher ?
Ah, lyncher, ça veut dire que les gens qui sont autour de vous, ils commencent à vous frapper et jusqu'à peut-être très loin, quoi. Ça peut aller jusqu'à tuer quelqu'un. Voilà. Il a eu de la chance parce qu'il y a des gens qui ont calmé la foule, mais la foule était prête à lui faire beaucoup de mal, ce monsieur. Voilà. Et pourtant, un préfet, normalement, doit le respecter parce que c'est le représentant de l'État.
Ça s'est passé ici ?
Oui, là.
On ne dirait pas trop qu'on est dans une gare.
Maintenant, la gare, c'est plus du tout comme ça.
Alors, on entrevoit les traces des rails, les traces du quai, mais c'est vraiment que des traces. Vous avez vu, il y a des arbres qui ont poussé au milieu, hein, des pins, des acacias.
Les rails, elles sont recouvertes.
Ouais, par de la terre.
Bon, ben, je vais vous faire entrer à l'intérieur. Hein. Bon, là, on est dans la salle des pas perdus. Et vous entendez comme ça résonne ? Parce qu'en fait, elle est vide. Il faut s'imaginer qu'à l'époque où il y avait les trains, elle était pleine, en fait. Il y avait un marchand de journaux qui était ici.
Venez acheter l'écho des Cévennes, la langue d'ancien, la semaine religieuse de Montpellier, la dépêche.
Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?
Le journal du midi, s'il vous plaît.
Il y avait des bureaux avec des gens qui travaillaient derrière pour donner les billets.
Bonjour, que désirez-vous ?
Un billet pour Montpellier.
Au départ de Pollan ?
Oui.
Et voici votre billet. Merci, bon voyage.
Là, derrière vous, il y avait la balance qui permettait de peser les bagages.
20 kilos votre valise, ma pauvre dame.
En plus, il y avait du monde. Hein, plus on est nombreux dans un lieu, moins ça résonne.
Merci Hélène de nous faire revivre ces lieux chargés d'histoire et d'émotion.
Et oui, il y a des souvenirs qu'il est important de ne pas oublier.
Ah, à ce sujet-là, j'ai quelques confidences à vous faire écouter. On nous les a racontées au marché de Pollan.
Racontez-nous un souvenir à Poulan.
Moi, j'ai rencontré mon mari au bal. Voilà. À Poulan, je ne sais pas, mais enfin, il y a eu quand même la guerre. On était obligés de partir dans les campagnes parce que ça bombardait pas loin. Une mauvaise période. En 1943-1944.
À part le marché, mais c'est... le marché était plus vivant que maintenant. Maintenant, il n'y a plus personne.
Moi, quand je venais ici, j'avais l'impression de venir chez Marcel Pagnol. Parce que moi, j'habitais à la montagne à l'époque, dans l'Aveyron. Et quand je venais ici, c'était comme si j'étais au pays du soleil.
On est venu acheter la maille. Eh oui, je l'ai aussi. Il est là, vous avez les deux.
Qu'est-ce que vous ne voudrez jamais oublier ?
Oublier la jeunesse.
Le couscous à ma grand-mère, qui est super, super bon.
Alors, l'esprit des villages, la proximité avec les gens. Toutes générations confondues, on puisse discuter, tout le monde se connaît, et ça, c'est important.
Ben, je voudrais que quand même on se souvienne qu'il y a eu une guerre en 39-40. Alors ça, il ne faut pas que les jeunes l'oublient et qu'ils restent solidaires entre eux. Voilà.
Quel est le souvenir le plus fort que vous avez vécu ?
Mon accouchement. C'est le souvenir le plus fort.
Le meilleur souvenir que j'ai, c'est avec mes animaux. Les bêtes que je récupère, les poules, les canards, les chevaux, les chiens.
Quand je suis parti en Grèce à mes 17 ans.
Dans le voyage ? Ah, c'est les montagnes, les rivières. J'arrêtais dans des bons champs, dans des bonnes rivières. Et le bon manger. Disons qu'on ne vit pas la vie pareil. Il y a tout qui change. Tu habites ici, là, tu vois toujours pareil. Là, c'est la diversité, tu vois plein de monde. Plein de gens qui ont des façons de vivre différentes que la nôtre.
Mon premier amour, la rencontre de mon premier amour, que je n'oublierai pas. Au collège, j'avais votre âge. C'est le plus beau souvenir.
Est-ce que vous pouvez nous chanter une chanson ?
Non, je te fous parce qu'il va pleuvoir après. C'est tout ce que je peux te dire, là. Que nous, on dit... Un homme ne sait pas où il va si c'est pas d'où il vient. Ça, c'est un problème gitan.
Bon, elle est en bas. Ciao. Oui, elle est en bas, normalement.
Merci à ces habitants de nous avoir accepté du temps pour répondre à ces questions. Et d'ailleurs, Eva et Sandra accueillent Madame Andrea Demar de l'association Les Amis de Apollon.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes née en quelle année ?
Je suis née en 1939.
C'était quoi les bruits qu'il y avait dans cette gare à votre époque ?
Alors, à mon époque, je peux vous parler lorsque j'avais 16 ans, par exemple, dans les années 50. C'est dans ce lieu, c'était le lieu de réunion des jeunes le samedi. Le samedi, les garçons, les filles venaient là parce qu'on n'avait pas de salle pour les jeunes à ce moment-là. Et ce lieu était très vivant parce qu'il y avait les trains qui arrivaient de Montpellier, qui partait sur Béziers. Et donc, il y avait aussi les internes du lycée qui prenaient leur train pour partir dans leur village. Elles étaient en permission ce jour-là. Grande sortie, ça s'appelait. Et donc, tous les garçons et les filles venaient là parce qu'on les accueillait. On les accueillait au milieu des voyageurs qui partaient.
Avez-vous des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors, oui, j'ai un souvenir très précis. J'étais dans un champ avec ma maman, on ramassait des lentilles et des pois chiches. Et les Allemands sont passés, ils faisaient des exercices sur la route d'Adissan. Ils faisaient des exercices, ils allaient s'entraîner. Et à un coup de sifflet de leur chef, ils devaient se coucher dans le fossé. Et quand ils se sont couchés dans le fossé, ils sont roulés, le portail du jardin où on était s'est ouvert. Et il y a un soldat allemand qui nous a roulés à nos pieds. Aussitôt, nous on était là avec ma maman, moi j'avais 4 ans par là. On regardait ce soldat qui était là à nos pieds et son chef qui lui donnait des coups de crosse. Alors, vite, on s'est levé, on a dit, mais on n'a rien, nous, on n'a rien. Il nous a rien fait, ce n'est pas de sa faute. Et donc, il s'est relevé et il a pris la place dans son rang. mais c'est un souvenir qui m'a frappé. Vous voyez, je vais avoir 79 ans le mois prochain. Et je vois encore ce soldat. Et puis la langue allemande, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Parce que ça me faisait très peur, cette langue. Et plus tard, je suis allée en Allemagne avec le jumelage. Et tout ça a disparu, bien sûr. Hein. Mais c'est un souvenir très fort dans mon enfance.
Est-ce que c'est important pour vous de ne pas oublier ce que vous avez vécu ici?
Ici, dans la gare ou dans le village?
Dans Pollan.
Dans Pollan, ah oui, c'est très important. C'est le village où je suis née, où je suis allée à l'école, où j'ai grandi, où j'allais au bal lorsqu'il y avait des fêtes, j'allais faire les courses dans les magasins. J'ai passé toute ma vie là. Et je me suis mariée à Pollan. Alors, après l'école, le collège, le lycée, je me suis mariée là. Et puis je suis partie institutrice ailleurs, dans tout le département, pendant 20 ans. Mais mes 8 dernières années, je suis revenue dans l'école où j'étais élève. Et dans la classe où j'ai fait mon CME1, j'ai eu la classe de CME1. Et après, j'ai continué à travailler alors dans les associations. Voilà. Et je suis toujours sur Pollan.
Racontez-nous des souvenirs importants ou vos amours.
Des souvenirs importants de mes amours. Alors, mon mari, je l'ai connu au collège. J'étais élève au collège. J'étais en seconde, en classe de seconde. Alors, c'était même déjà le lycée, hein, seconde, et puis lui, il était en première. Et alors, vous voulez savoir les souvenirs exactement quand est-ce qu'on s'est parlé pour la première fois?
Ouais, ok.
Eh bien, c'était en étude, et il m'a envoyé un petit papier, en faisant bien attention que le surveillant ne nous voit pas. Voilà. Voilà, les premiers souvenirs, et puis... Plus tard, quand je me suis mariée, je suis venue surveillante au même collège pendant 5 ans. J'ai été surveillante au collège, avant d'être institutrice. Donc, je connaissais tous les petits recoins, tous les coins du lycée de Pollan, je connaissais tout, en tant qu'élève, puis après en tant que surveillante. Et puis après, j'étais maman d'élève, puisque mes enfants sont allés aussi dans ce collège.
Racontez-nous ce que vous faisiez à la gare de Pollan quand vous étiez jeune.
Alors à la gare, on venait... D'abord, il y avait une fête dehors où on dansait, au mois d'août. Il y avait une grande fête. Ça s'appelait la fête des employés de gare. Et puis, comme je vous disais, dans cette gare, c'était le lieu de rendez-vous des garçons et des filles. Parce que les garçons jouaient au foot... Et puis, il y avait un cinéma dans une rue à côté, dans la rue des Variétés, il y avait un cinéma. Alors, il y avait des séances le samedi soir, il y avait une séance dimanche après-midi, et puis le dimanche soir. Donc, il fallait savoir à quel moment on pouvait aller avec notre petit copain au cinéma ensemble. Ça se passait ici, dans cette gare. Parce que tous les jeunes venaient là.
Sandra aussi a beaucoup de souvenirs et surtout des valeurs qu'elle ne veut pas oublier pour pouvoir les transmettre en l'écoute.
Ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, c'est la religion et le partage. À la maison, avant de manger, on prie. On est tous assis autour de la table et on se donne la main. Ensuite, mon père récite la prière dans sa tête pour remercier Dieu de nous donner à manger. Il finit en disant Amen et on le répète tous. Pour moi, le partage, c'est important. On m'a toujours dit de ne pas être égoïste. Si tu croises quelqu'un qui n'a rien et que toi, tu as quelque chose, donne-lui car tu sais que tu as les moyens de donner. Chez nous, la transmission de la religion est très importante. Dans la tradition gitane, les mariages ne se font pas à l'église. On réserve une salle et on fait la fête. Il n'y a pas de prêtre, c'est le plus vieil homme de la famille qui récite quelques phrases pour sceller l'amour. Mais le plus important, c'est le demandement. C'est comme une demande en mariage. Le père du garçon va voir le père de la fille quelques mois avant le mariage. Il lui demande la main de sa fille pour son fils. Après le demandement, on fait la fête. Si toutes les conditions pour le mariage ne sont pas respectées, les amoureux doivent s'échapper. Ils ne pourront revenir que si la fille est enceinte. Alors ils se réconcilient. Chez les Gitans, on donne le nom des ancêtres aux nouveau-nés. Moi, j'ai le nom de ma grand-mère et je l'aime bien.
Merci Sandra pour ce témoignage.
Continuons nos allers-retours en direction de Pézenas pour rejoindre Denis, le guide touristique.
La première fois qu'on peut recenser les habitants, c'est au 15e siècle, où on a des registres de feux. On compte les feux, c'est les familles. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à combien de personnes correspond un feu, s'il faut compter les domestiques, s'il faut compter que la famille. Donc, il y a 200 feux à Pézenas au 15e siècle. Au 17e siècle, il y a 10 000 habitants, on le sait par les compois et par les registres de baptême. Et aujourd'hui, il y en a 8 000. Voilà, on est redescendu. Et il y a un projet d'éco-quartier qui vise à remonter la population au-dessus de la barre des 10 000. Voilà, donc ici, on est dans les fossés, on quitte les fossés. On va descendre rue de la Canabasserie, en occitan, Lucanabe. C'est le chanvre. Donc on avait les draps de laine dont nous parle Pline, qui sont tissés à Pézenas. Et on a aussi toute une industrie liée à la production chanvrière. Et donc c'est comme la canevière à Marseille. On a ici les ateliers de tisserands au Moyen-Âge. Donc on descend cette rue, on va s'arrêter un petit peu plus bas. Donc, si vous avez des questions, profitez-en, hein, comme on n'est pas trop nombreux.
Je m'appelle Denis et je travaille à l'office de tourisme. Et c'est moi qui fais des visites guidées voilà, pour l'office, qui fait aussi un travail de recherche pour pouvoir améliorer les visites et améliorer la connaissance du patrimoine.
Pourquoi la ville s'appelle Pézenas?
Ah, c'est un mystère, on ne le sait pas. Ça pourrait venir de Piscenae, le mot latin. Piscenae, ça veut dire la piscine, le bassin où on lave la laine. Puisque Pline l'Ancien, alors je ne sais pas si vous connaissez Pline, vous connaissez Pline l'Ancien?
Non.
C'est un auteur très 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 vieux de l'Antiquité. Il a écrit que cette ville était célèbre pour la qualité des toiles de laine qui étaient fabriquées. Et pour faire des toiles, qu'est-ce qu'il faut faire avec la laine? Il faut la laver, il faut la préparer. Et donc il y avait des bassins. Et le bassin en latin c'est piscine, piscina, comme Piscenae ou les Piscénois, le nom des habitants de la ville.
Quels sont les métiers qui ont disparu à Pézenas?
Tous les métiers liés au textile. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des textiles. Et tout ce qui est les distilleries. On a produit beaucoup de vin. Et le vin, il se vendait mal, parce qu'il n'était pas de bonne qualité. Et on a trouvé le moyen de pouvoir le vendre en le distillant, en le transformant en alcool. Et comme ça, on pouvait le garder longtemps, et cet alcool, il est exporté dans le monde entier. Et Pézenas, ce sera la ville pour tout le sud de la France où on va fixer le prix de l'alcool. Voilà. Et donc, jusqu'en 1900, Pézenas, c'est vraiment la ville importante pour, on appelle ça le courtage, pour tout ce qui concerne le commerce des alcools, des eaux de vie et du vin pour le sud de la France. Ça aujourd'hui, ça n'existe plus.
Est-ce que vous pouvez nous parler comme à l'époque de Molière?
Non, c'est compliqué. Dis. Non. Non. Puis je vois, je suis enrhumé, alors avec le nez, ça fait un peu bizarre. Mais Molière, alors, il parlait comme nous. Aujourd'hui, il y a des gens à la faculté là qui essaient de reconstituer la manière dont on parlait à l'époque de Molière et comment on faisait le théâtre à l'époque de Molière. Et il y a des gens un peu fous là qui refont des spectacles avec les chandelles, avec les lumières comme à l'époque de Molière. Et quand on les écoute parler, on dirait des Canadiens qui parlent. Vous avez déjà entendu parler des Canadiens?
Ouais.
Avec des mots bizarres, un accent bizarre. Et bien, le français de l'époque, là, il y a très longtemps, il ressemblait un peu aux Canadiens actuels.
Quelle réputation avait Molière à Pézenas?
Celle d'être déjà un grand comédien, un grand auteur, un homme de lettres, d'esprit. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote, parce qu'avant de devenir comédien, Molière a fait des études de droit. Est-ce que vous connaissez Gignac?
Ouais, oui.
Un jour, Molière il est passé à Gignac, il avait des gens qui regardaient une plaque en marbre où il y avait une inscription gravée en latin. Et personne ne savait la traduire. Et donc Molière a décidé de se moquer des gens. Et il a fait une traduction spontanée et il leur a dit, voilà ce qui est écrit sur la plaque que vous ne savez pas lire. Ici se trouve l'abreuvoir, puisque c'est une fontaine, des ânes de Gignac. Il a voulu dire des imbéciles qui ne comprennent pas le latin. Et voilà comme il se serait moqué des gens de Gignac. Et donc ça, ça fait partie des légendes et des histoires que Molière a laissées à Pézenas. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci Denis de nous avoir accordé cette interview. Tu as une vraie mémoire d'éléphant.
Mémoire. Ah oui, c'est notre sujet, ça.
Mais oui, Maria. Maintenant, parlons de la mémoire du corps avec Sofiane. Salut, Sofiane. Alors, salut. Tu vas nous parler de ta tête.
Je suis tombée dans les escaliers il y a 3 ans et j'ai gardé la cicatrice sur ma tête. C'était un après-midi, mon frère partait pour son entraînement de taekwondo et moi aussi. Je voulais sortir dehors. Ma mère ne voulait pas que je sorte et je suis sortie en cachette avec lui. J'ai descendu les escaliers à grande vitesse comme d'habitude. Je suis partie vite, mais cette fois, j'ai glissé et d'un coup, je suis tombée et je me suis ouvert le crâne. Quand je me suis relevée, j'ai vu du sang partout et il y avait mon frère qui rigolait. Je me sentais mal. Mon voisin m'a ramené chez moi. J'ai fini aux urgences. Là-bas, ils m'ont mis de la colle et quand je faisais la douche, je devais prendre une petite serviette et la mettre sur ma cicatrice pour que l'eau n'enlève pas la colle. Depuis cette histoire, j'ai compris qu'il faut écouter sa mère. Moi, j'ai pas changé. Je descends les escaliers toujours aussi vite et je me fais mal tout le temps. Hier, je suis tombée 2 fois. Moi, je trouve qu'il faut tomber dans la vie.
Merci, Sofiane.
Salut, Kader. Tu es avec le pompier Mohamed pour comprendre la réaction de Sofiane.
Bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous.
Donc, je m'appelle Mohamed. Je suis sapeur-pompier à Poulan. Voilà, en qualité de volontaire. Depuis 1994, donc ce qui fait aujourd'hui 24 ans.
Que conseillez-vous à Sofiane qui se fait tout le temps mal?
Ce que je conseillerais à Sofiane, c'est de bien écouter ses parents, d'être relativement raisonnable afin d'éviter des blessures. Donc c'est ce qu'on appelle les accidents domestiques. Les parents ont une certaine expérience des accidents domestiques de par leur vie et il faut vraiment être attentif parce que ça peut avoir des conséquences assez graves sur la santé. Voilà, ça peut être par exemple s'ébouillanter avec une casserole, comme une chute dans les escaliers, une chute du canapé et tout ce qui s'ensuit.
Comment vous faites pour ne pas penser à ce que vous vivez dans votre travail?
C'est une façon d'exister. On sait pertinemment qu'on fait ce métier ou cette activité pour sauver les gens. Et dans notre mémoire, on occulte tout ça pour avancer et aller de l'au-delà, malgré les graves situations auxquelles on a à faire face. Mais toujours positiver, toujours avancer, ça nous sert et on voit la vie complètement d'une autre façon.
Y a-t-il un souvenir que vous ne pourrez jamais oublier en tant que pompier ?
Il y a énormément de souvenirs, mais voilà, pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres, voilà, c'est quelque chose qu'on garde pour soi ou qu'on partage avec ses collègues. Parfois, ça nous fait du bien d'évacuer certaines scènes.
Êtes-vous en contact avec des personnes qui perdent la mémoire? Que faites-vous pour les aider?
En contact avec les personnes qui... Donc ça, c'est dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de citoyen, comme vous et moi. Voilà. Sinon, de par notre métier, les personnes auxquelles on a affaire face, en général, on ne les revoit plus du tout. Voilà. Donc ensuite, de par notre quotidien, on est des citoyens comme les autres. Donc bien sûr, on a affaire à des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et voilà, donc comme vous et moi, comme tout le monde, il faut être présent et aider ces gens dans ces moments difficiles afin de faire en sorte que pour eux, rien ne laisse transparaître leur mal-être et que la vie soit la plus normale possible.
Merci.
De rien.
Ça ne doit pas être facile votre métier. Merci pour ces infos.
De rien. Bon après-midi.
C'est le moment de vous quitter, notre colo radio touche à sa fin. On espère que ce reportage a stimulé votre mémoire.
On voudrait remercier Radio Pays d'Hérault, Anaïs la plasticienne, Hélène David de l'association Qu'est-ce qu'on attend, Denis, le guide de l'Office du tourisme de Pézenas.
Ainsi que tous les habitants de Pézenas et de Pollan qui ont partagé leur témoignage.
Pour la création de cette émission, il y avait Kader, Iyed, Maria, Mounir, Sandra, Redouane, Eva et Soufiane. On remercie également l'association Wakadji avec Élise et Capucine à la réalisation. Merci à Julia de l'association Essor, Savoir et Partage de nous avoir emmenés en couleur radio.
À bientôt sur les ondes de la radio RPPP.